C'est la meilleure louange. C'est ce que Dieu attend. J'aimerais parler avec vous ce matin d'un sujet. Alors, j'ai découvert ce terme qui ne fait pas forcément partie du langage commun de tous les jours, la germination. Germination. Et pour bien comprendre ce à quoi nous sommes invités à méditer ce matin, on va parler de germination spirituelle. Et on va lire en Jean chapitre 12, le verset 24. Jean chapitre 12, verset 24, qui dit « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Amen. On peut le relire. La lecture, elle est très courte, mais ô combien de points à relever, combien de points sur lesquels réfléchir. Nous ne pourrons certainement pas arriver au bout de tout, mais je crois qu'à chacun de nous, le Seigneur imposera dans nos cœurs ce qui est sa pensée pour chacun de nous de manière personnelle. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est Jésus qui parlera ainsi. Et par ce « en vérité », c'est quelque chose pour mettre « c'est vrai » de vrai. Ça dépasse la logique humaine, mais c'est vrai. Et Jésus souvent à utiliser des images qui faisaient partie de la vie de tous les jours pour que chacun puisse véritablement saisir le fondement spirituel qu'il y avait derrière son principe. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il est question de bien vivre la mort. C'est étonnant de dire ça. Est-ce qu'on peut bien vivre la mort ? Mais dans le cas présent, comprenons bien. Certes, nous pensons tout de suite à la mort physique. Mais Jésus est en train d'interpeller le peuple, lui qui va véritablement mourir physiquement, puisqu'il va se donner pour le sacrifice à la croix, pour que nos péchés soient pardonnés. Mais il invite ceux qui l'entendent et ceux qui entendent encore aujourd'hui, donc vous et moi, à considérer qu'il est question d'une mort bien plus importante que la mort physique. Il est question de mourir à soi-même. Il est question d'une mort spirituelle dans laquelle nous mettons de côté et nous faisons mourir définitivement notre ancienne vie de pécheur. Tant que cette ancienne vie de pécheur n'est pas morte, excusez-moi, il est toujours bien vivant. Et c'est difficile de se défaire de ce qui est très vivant. Vous allez bientôt, et nous allons bientôt, recommencer à enlever les mauvaises herbes dans le jardin, n'est-ce pas ? Et une fois que vous les avez enlevées, est-ce que c'est résolu le problème ? Vous êtes obligé de recommencer combien de fois ? Autant que nécessaire. Pour véritablement enlever ces mauvaises herbes, une fois pour toutes, il faut aller jusqu'au bout de la racine. Tant qu'un tout petit peu de racine reste dans la terre, ça repousse. Et on recommence. Alors dans notre cœur, le Seigneur veut bien travailler, mais il est question pour nous d'accepter aussi une mort personnelle, intime. Et le texte dit que tant que la graine reste dans le pot, dans le sac, elle ne peut pas produire de fruits. Alors si certes, ce concept, ce point est vrai sur ce qui concerne notre vie spirituelle, mais il est aussi question pour nous du fruit de notre vie spirituelle. Quel fruit sommes-nous prêts à amener au Seigneur ? Est-ce que nous avons à cœur de porter du fruit pour le Seigneur ? Oui ? Vous savez, y a une différence, je considère, hein, je discutais avec mon papa cette semaine. Il me disait qu'il était en train de s'occuper des arbres. Il était en train d'enlever les branches pour préparer, pour que finalement, quand l'arbre sera à nouveau bien reparti avec le printemps, il y ait bien du fruit. Mais je me rappelle d'une fois où mon papa et ma maman sont partis couper, enlever des branches. Et j'étais au balcon, on était encore en Italie, on habitait en Italie, je voyais mon père partir avec ses cisailles, je me suis dit, oh Seigneur. On avait un arbre dans le jardin, il était magnifique. Il y avait du fruit. Et lui, dans son cœur, il voulait qu'il porte encore plus de fruits. Et ils ont commencé, et coupe à droite. Et ma maman, non, moi je couperai de ce côté-là. Et coupe à gauche. Vous savez, sur l'arbre, il n'est pas resté grand-chose. Hein. À part le tronc. Je lui ai dit, bah, écoute, cette année, on les a goûtés, les fruits. L'année prochaine, c'est fini. Et avec le temps, l'arbre, il est mort. Il n'y avait plus rien. Si on considère nous-mêmes la manière où on doit couper ce qui ne va pas, on peut parfois nous-mêmes nous donner la mort et ne pas porter du fruit. Mais si on laisse Dieu agir et qu'il nous donne la sagesse dont nous avons tous besoin, pas seulement pour notre vie personnelle, mais cette sagesse dont on a besoin de faire preuve dans le monde dans lequel nous vivons, il y aura un fruit. Et combien c'est merveilleux de voir quelqu'un qui vient avec un panier plein de fruits, non? Qu'est-ce qui se passe quand vos arbres sont pleins de fruits? Oui, très bien. Super. Mais est-ce que tu arrives à manger tous les fruits que tu as cueillis? Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu partages. Tu ramènes aux autres. Ça produit quelque chose. La volonté de Dieu, c'est que nous portions du fruit, certes, déjà pour notre vie personnelle, la joie de voir un changement dans notre vie qui porte du fruit pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais en même temps que ce fruit puisse être partagé aussi avec les autres et que les autres aient envie de porter du fruit. N'est-ce pas? Je me rappelle d'une année, un frère, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, j'ai tellement de cerises que je ne sais plus quoi en faire. Je dis, ramène, t'inquiète pas. Et ma femme et mes enfants, je pense qu'en un après-midi, ils ont mangé quelque chose comme 12 ou 13 kilos de cerises. Moi qui rentrais de la réunion le soir, je me suis dit, tiens, le frère a ramené des cerises, je vais goûter ce soir. Même pas les noyaux. Tout était passé. Et il me retéléphone, il y en a encore trop. Je dis, ramène à l'église. Et le dimanche, après le culte, chacun repartait avec sa petite cagette de cerises. Et ce frère était heureux, heureux. Il disait, il y a des années en arrière, cet arbre ne donnait rien. Et maintenant que je suis à Christ, il donne. Parce que vous savez, ce qui se passe à l'intérieur se voit aussi à l'extérieur. N'est-ce pas? Alors Jésus dira, il faut que le grain de blé tombe et qu'il meure. Mais tant que le grain reste dans le pot, il ne peut pas produire de fruits. Est-ce que c'est vrai? L'épanouissement n'est possible que lorsqu'il porte du fruit. N'est-ce pas? Alors, est-ce que nous sommes épanouis? C'est une question auxquelles je ne vous demande pas de répondre publiquement. Mais c'est quelque chose qui doit nous amener à un processus de réflexion et de se dire, est-ce que Seigneur, est-ce que j'ai accepté finalement d'être mis en terre? Et regardez bien le terme, tomber en terre et non pas par terre. Il n'est pas question pour nous de tomber par le péché, mais il est question pour nous d'être semés dans la terre. Quand nous tombons à cause du péché, le fruit qu'on porte, il n'est pas bon. Ni à manger, ni à voir. D'ailleurs, il dit la parole de Dieu que le péché, une fois consommé, Jacques, mène à la mort, n'est-ce pas? C'est comme un fruit qui est pourri, que personne n'a envie et n'envisage d'utiliser pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'utilisation pourrait amener à un empoisonnement de celui qui en mange. Mais par contre, si la semence est mise en terre, ça veut dire qu'elle est amenée dans un but bien précis. Certes, il y a séparation des autres grains. Et ça, on n'aime pas, on aime bien être tous ensemble dans le même sac. Hein, c'est bien, surtout dans les périodes de froid. On est les uns à côté des autres. Mais regardez ces dernières années, On a vécu quelque chose qui nous a amené à être séparés les uns des autres. Et regardez un peu les conséquences. Peut-être qu'avant, on n'avait pas trop l'habitude d'appeler les uns et les autres pour prendre des nouvelles. Et d'un coup, on a senti dans notre cœur que le Seigneur nous demandait de prendre soin des autres. N'est-ce pas? En même temps, ça a été l'occasion aussi pour parler aux autres du Seigneur. Et avant, on était tellement occupés par nos propres activités qu'on n'avait pas forcément le temps. Et certes, pendant le confinement, et comprenons bien, pendant le confinement, alors qu'on ne pouvait pas venir à l'église, mais qu'on avait une heure de sortie. Ah, quel bonheur de prendre notre papier, l'écrire, sortir, et pendant qu'on marchait en bénéficiant d'un soleil tel que nous l'avons ici, tous les jours, merci Seigneur, de pouvoir prier et de dire Seigneur, oh combien tu es grand et tu es merveilleux, de louer Dieu en sillonnant les routes, les grandes et les petites. Que se passe-t-il quand nous marchant dans la rue. Moi, je crois à cette vérité spirituelle. Tout lieu que ton pied foulera, je te le donne. Est-ce qu'à quelque part, le Seigneur ne nous a pas demandé de sortir de notre petit confort pour finalement aller porter du fruit? Alors oui, la partie sanitaire, c'est pas du jeu. C'est pas quelque chose que réjouit le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que Dieu a voulu. C'est la conséquence des actes et des péchés des hommes. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut ou ne veut pas. On assume nos erreurs. Mais néanmoins, Dieu, par ce moyen, il nous parle. Il nous exhorte. Il nous ramène à nouveau à retrouver le véritable sens de la vie spirituelle. Alors, je voudrais dire que même si les graines, elles sont semées, vous avez déjà vu un semeur sorti pour semer. C'est magnifique le geste. Hein, on voit les semences partir. Elles sont éparpillées, les semences. Elles ne sont pas trop loin les unes des autres. Et moi, je me réjouis. Parce que même si parfois il y a un peu de distance, pour mieux voir mon frère, je suis obligé de m'élever. Comment je dois m'élever? Non pas en montant sur la chaise, mais en priant pour lui. En prenant soin de lui. En me disant, et comment il va le frère là-bas au fond du champ? Ah, il va bien, regarde, ah, il est debout, amen. Seigneur, bénis-le, fortifie-le. Et je ne vois pas l'autre, attends, peut-être il va falloir que je monte un peu plus. Allez, je vais prier pour lui, Seigneur va me permettre aussi de voir. Et en même temps, le Seigneur veut que nous puissions grandir dans notre vie spirituelle. Jean chapitre 12, verset 26, il dit, si quelqu'un me sert, qu'ils me suivent, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, en analysant ce texte, je me suis rendu compte de différentes choses. Le premier, c'est que le but de chaque enfant de Dieu, c'est qu'il le sert. On est sauvé pour, un peu plus fort, sauvé pour. Alléluia. Mémorisez ça, mettez-le de côté. Ne vous inquiétez pas, on va se revoir à la fin du culte. Le terrain, là où Dieu il nous veut, c'est là où Jésus se trouve, qu'il me suive. Le service, ce n'est pas où nous voulons, c'est là où le Seigneur se trouve. Où est le Seigneur? Parfois dans des lieux où nous ne voudrions pas y aller. Parfois, le Seigneur nous amène sur un terrain qui ne nous semble pas forcément adapté, mais c'est là que Dieu va agir. Quand les disciples se sont retrouvés en prison, est-ce que c'était le bon terrain? Je peux vous dire que c'était dur et froid, mais c'est là qu'il y a eu des miracles. Donc, quel terrain Dieu nous amène? Parfois, les terrains les plus compliqués, mais plus c'est compliqué, plus il y aura de fruits. C'est incroyable, parce que la grâce de Dieu est surabondante. Et il dit aussi que là où je suis, donc l'œuvre appartient à Dieu, mais il est question aussi que là aussi sera mon serviteur. Je voudrais dire qu'au service du maître et à ses conditions. N'est-ce pas? Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Deux fois il répète cette phrase, si quelqu'un me sert. Il est question pour nous de porter un fruit, une offrande personnelle au Seigneur. Et certes, quand il dit « mon Père l'honorera », c'est au moment où on va se retrouver devant Dieu, n'est-ce pas? On a tous dans la mémoire et sur notre cœur cette phrase qu'on a entendue au moins une fois. Rentre, mon bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Alléluia! Mais nous connaissons aussi tous les textes qui nous parlent de ces serviteurs qui n'ont pas été fidèles, qui ont caché la semence parce qu'ils avaient peur, le talent parce qu'ils ont mis... Et quelle a été la récompense? Triste. Alors, il est question pour nous, et on en a parlé tout à l'heure, de cette mort qui produit la vie. Il est question pour nous d'accepter aussi le brisement. Vous savez, quand la semence tombe par terre, ce qui va se produire après, par la suite, c'est que la coquille qui couvre la semence, elle doit se briser. Et une fois que la coquille elle est brisée et le brisement est lié à la chaleur de la terre, mais aussi à l'humidité, là, il y a la germination. En effet, la semence commence à faire des racines et à les pousser dans le terrain pour aller chercher tout ce qu'elle a besoin pour finalement s'élever. Mais au préalable, il est question de ce brisement de la coquille. Est-ce qu'on accepte que Dieu brise notre coquille? Cette coquille, nous l'avons renforcée avec le temps. Parce qu'on n'a pas envie qu'on touche au fond de nos sentiments. On a été tellement déçus qu'on a fait une carapace. Ce n'est plus une coquille, c'est une carapace. Non? Eh bien, le Seigneur nous dit, tu sais, tant que tu gardes ta carapace, tu ne peux pas porter du fruit. Oui, mais Seigneur, c'est tout ce que je désire. Ouais, mais il faut accepter d'enlever cette carapace. Alors, vous savez, Dieu ne viendra pas avec un ouvre-boîte. Vous avez l'image, hein? Vous voyez ces soldats d'un temps où ils avaient ces carapaces, ces armures en métal. Hein? On se dit, avec l'ouvre-boîte, il fallait les sortir. Le Seigneur, il ne vient pas avec ça. Hein? Question, il dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu acceptes de mourir à toi-même? Est-ce que tu acceptes d'abandonner cette armure qui en réalité t'empêche de porter du fruit? Combien d'entre nous se sont dit au début d'année, et j'espère qu'on fera le bilan en fin d'année, Seigneur, je voudrais porter du fruit pour toi. Mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter que notre carapace soit brisée. D'ailleurs, Jésus dira en Jean chapitre 12, verset 25, « Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Que veut-il dire par là, Jésus? C'est que si on est attaché à notre vie, à notre caractère, à notre manière de faire, en réalité, on perd tout, on n'aura rien. Par contre, celui qui se dit, moi, ce que je suis devenu à cause du péché de ma vie du passé, je n'en veux plus, je veux vivre pour Christ, j'accepte de mourir à moi-même parce que je veux être une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais lui, par contre, il la gardera pour l'éternité parce que c'est une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues, alléluia. Une chose qui est aussi à considérer, c'est qu'il dit que si la semence elle reste seule, elle ne porte pas de fruits. C'est vrai? Il est question de faire attention à une certaine stérilité, mais aussi le danger de l'égocentrisme. Seul, je suis bien. Je ne dérange personne et personne ne me dérange. Ça va 5 minutes. Il y a à peine une semaine, j'étais obligé de m'enfermer pendant quelques jours en attendant de faire un test. Dans mon cœur, j'étais en paix, mais il y a des règles et on les respecte. Premièrement, pour préserver les autres, mais en même temps, parce que ça nous apprend aussi certaines choses, non? Et ça nous remet sur nous-mêmes. Alors, je peux vous dire que les premières heures, je me suis dit, bon, ok, je suis enfermé, je vais profiter un peu de me reposer, de lire, c'est bien, c'est pas si mal. Peut-être je vais pouvoir terminer des livres que je n'ai pas terminés jusque-là, mais au bout d'un jour. Oh, Seigneur, j'étais pire qu'un lion en cage. Je connais tous les points qu'il y a dans les murs, le plafond, le sol, où ça bouge, où ça fait du bruit. Au bout d'un moment, j'ai dit, Seigneur, si je ne sors pas d'ici, je vais devenir fou. Alors comment on peut penser vivre toute sa vie, excusez-moi, enfermé, avec nous-mêmes? Parce que c'est vrai, peut-être parfois la vie avec les autres n'est pas facile. Et ça, il n'y a que votre conjoint qui peut vous le dire. Mais je vais vous dire que parfois même la vie avec nous-mêmes n'est pas facile. Non? On est obligé de se dire, mais qu'est-ce que tu es devenu compliqué? Alors il est question des principes du monde, où il est question d'un grain de blé centré sur lui-même, autosuffisant, mais qui ne portera pas de fruits. Et après, il y a le principe de Christ. Et nous le trouvons en Philippiens chapitre 2, versets 4 à 8. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas seulement voulu devenir serviteur, il dit le texte, il est devenu esclave. Il y a quelque temps, j'étais en route et j'étais en train d'aller faire une visite. Et dans la voiture, je priais, je demandais au Seigneur de me donner la sagesse, de me donner ce qu'il fallait, la sensibilité, le Seigneur me ouvre la compréhension aussi pour trouver ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait dire. Et pendant que j'étais en route, ce texte est venu sur mon cœur. Et à quelque part, je me suis dit, on aime dire qu'on est des serviteurs de Dieu. Mais j'ai analysé ça, et c'est une analyse qui ne concerne que moi, comprenez bien. Je me suis dit, en général, un serviteur peut prétendre parfois des vacances. Non ? Un serviteur peut prétendre parfois un salaire. Parfois. Au moins une fois par mois. Hein? Et même s'il n'y a pas un 13e mois, il le demande quand même. Non? Un serviteur peut dire, écoutez, voilà, je vous sers de telle heure à telle heure. Après quoi, j'ai aussi ma vie personnelle. Mais un esclave. Alors, est-ce que je veux être serviteur de Dieu? Est-ce que je veux être esclave de Dieu? Le tarif n'est pas le même. Et je dirais qu'il n'est plus question de considérer ce qu'on peut en retirer de notre service, mais tout ce que nous devons à celui que nous servons. Le texte dit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est question pour nous de vivre pour Christ, n'est-ce pas? 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15, il nous est dit, il est mort pour tous, donc il, Christ, est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. La mort de la chair, frères et sœurs, est au profit de la vie de l'esprit. Si nous voulons véritablement vivre la vie de l'esprit, on doit d'abord passer par la mort de la chair. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne toute la place dans notre vie. Nous voulons planter nos racines en profondeur dans la bonne terre qui est la parole de Dieu, qui est la vie de Dieu. Il faut accepter de mourir à soi-même. Tant qu'on ne meurt pas à soi-même, cette coquille nous empêche véritablement de sortir et de vivre quelque chose de bien plus profond. Jean chapitre 6, verset 63 dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que, en Romains chapitre 6, verset 22, qu'une fois que le grain de blé a germé, l'étape suivante est de lever pour produire du fruit. s'il faisait que germer, s'il faisait que étaler ses racines sans qu'il n'y ait rien qui sort de la terre, il y a un problème, il n'y aurait pas de fruits, n'est-ce pas? Mais il est question de lever. Qui veut encore que le Seigneur puisse le faire lever? Amen. Peut-être ça fait des années ou un temps que vous avez passé déjà l'étape de la germination. Alléluia! Maintenant, c'est le temps de lever. Seigneur, c'est normal, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on s'enracine, très bien. Mais maintenant, il est temps de lever. C'est aussi un autre terme qui est attaché au travail de la terre. Et il dit, Romains chapitre 6, verset 22, « Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Alléluia. Béni soit le Seigneur. J'aimerais nous rappeler à nous tous, et je vais être très court, l'histoire de cette femme qui viendra vers Jésus et qui, ayant entendu que Jésus se trouve dans la maison d'un homme, cette femme vient et apporte un petit vase d'alabâtre. Vous connaissez l'histoire. C'est très bien. Ça nous permet de gagner du temps. Déjà, un vase d'alabâtre, ça a de la valeur. Hein? Vous en avez combien de vases d'alabâtre chez vous? Vous n'avez pas de vase d'alabâtre. Oh là là. Ben on sait ce qu'on doit vous offrir la prochaine fois. Hein? Mais en réalité, si on prend en considération, malgré la valeur et l'aspect certainement très beau du vase d'alabâtre, ce n'était pas le vase d'alabâtre qui était important. C'était le parfum qui était à l'intérieur. Et moi, je suis certain que malgré la forme que le vase peut avoir, et on a tous des formes différentes, hein. Il y en a qui sont très longiformes, d'autres où le contenu peut être un peu plus important, mais bon, chacun a sa forme, n'est-ce pas? Chacun a sa manière de faire, il y en a qui sont plus grands, il y en a qui sont plus petits, c'est pas important. Mais tant qu'on n'accepte pas de passer par l'étape du brisement, le parfum pur que Dieu a installé dans notre cœur ne pourra pas se répandre. On a beau dire que j'ai le plus beau des parfums, le meilleur des parfums, le plus pur des parfums, tant que le vase n'est pas brisé, ce parfum, excusez-moi, n'apportera aucun changement à la vie de qui que ce soit. Est-ce que notre désir, est-ce que c'est celui de répandre le parfum de Christ? Oui? Où est-ce que vous voulez répandre le parfum de Christ? Je crois que le premier lieu où on a envie que le parfum se répande, c'est chez nous, non? Dans notre maison, pour que le Seigneur puisse embaumer le cœur de nos enfants peut-être, ou d'un conjoint qui n'est pas encore à Christ. Ce qu'on a envie, c'est que tous ceux qui rentrent dans notre maison, ils sentent qu'il y a quelque chose de particulier. Ils disent « Waouh, waouh, il y a une paix ici que je retrouve nulle part. Maison de prière. » Mais après, c'est merveilleux aussi pour le quartier, non? Notre ville. Non? Mais l'église. Si on est tous en train d'émaner du parfum, je peux vous dire que dans le quartier, on ne sentira rien d'autre. Hein? Non? Vous avez déjà vu ceux qui se parfument bien le matin? Moi, lorsque j'étais jeune, hein, mais ça c'était avant, mon père me disait, ça y est, il a vidé la bouteille. Avant de se marier, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Hein? Je disais, Seigneur, il faut m'aider, hein? Je mettais du parfum. Il est question pour nous, frères et sœurs, de répandre pour Christ le meilleur qui est dans notre cœur. Mais pour ça, il faut accepter, crac, d'être brisé. Je termine. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 15, il nous dit que ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. C'est repris de cet enseignement de Jésus, un semeur sorti pour semer, une part est tombée sur le chemin, une part est tombée parmi les rochers, une part est tombée dans la bonne terre. Et la question, c'est de porter du fruit. Alors, ceux qui entendent la parole, si nous avons entendu la parole ce matin, et que notre cœur est bon et honnête, et ça, c'est personnel. Mais il est question aussi de la retenir et de porter du fruit par la persévérance. Qui a envie de persévérer pour dire « Seigneur, je veux porter du fruit ». Alors je vous invite à fermer vos yeux et nous allons prier quelques instants ensemble. Et dire encore au Seigneur, ô Éternel, et Dieu de miséricorde, que ta parole puisse encore nous amener, Seigneur, avec joie, à renoncer à notre ancienne vie, à accepter, Seigneur, que cette coquille qui nous renferme, Seigneur, soit brisée, pour que nous puissions finalement, Seigneur, nous enraciner, porter du fruit, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, si ça nous amène à une mort de nos pensées, de nos projets, de nos idées, Seigneur, si tout cela bouleverse, Seigneur, notre existence autant qu'être humain, ô Seigneur, ô combien ça nous épanouit spirituellement parce que nous savons qui nous servons. Nous savons avec qui nous sommes. Et nous savons aussi la récompense qui nous attend dans le ciel. Puisque tu dis que celui qui te sert, celui qui est là où tu es, Seigneur, sera lui aussi reçu par le Père. Seigneur, notre plus grande satisfaction sera celle d'avoir été trouvé bon et fidèle. Ce n'est pas les couronnes que nous voulons sur notre tête, Seigneur, mais c'est d'être dans ta présence. Seigneur, si encore cette enveloppe extérieure résiste, Seigneur, nous te prions, donne-nous la force, donne-nous le courage, Seigneur, ce matin de te dire, Seigneur, je veux porter du fruit pour toi. Seigneur, j'accepte que tu me mettes dans cette condition où cette enveloppe sera brisée, mais que finalement, Seigneur, ce que tu as déposé au plus profond de mon cœur puisse répondre, Seigneur, aux attentes qui sont celles de notre Dieu, de notre Père. Seigneur, merci de bénir ton Église, qu'elle puisse être une œuvre qui porte beaucoup de fruits, que ce soit une œuvre, Seigneur, qui nourrit les foules de cette parole bonne, sainte, merveilleuse, qui amène à la vie éternelle. Seigneur, remplis-nous de la vie de l'Esprit. Et pour cela, Seigneur, nous devons renoncer et refuser de revenir à notre ancienne vie, Seigneur. Que cette partie de vie de pécheur soit complètement morte, Seigneur. Qu'il n'y ait plus de mauvaises racines dans notre cœur. Mais que nous puissions, Seigneur, être trouvés bons et agréables pour la gloire de ton nom. Et nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.